Bonjour et bon début de journée. Bon réveil, il est 7h. Je dis pas qu'il y a des matins plus faciles que d'autres pour se retrouver, mais franchement, quand on voit le ciel qu'on a en tantôt le matin, c'est juste magnifique, ça fait du bien.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Ludovic Turin, bonjour. C'est quand même plus facile de se lever
quand il fait beau.
Hein?
Ouais, puis surtout
le ciel est dégagé.
Quand vous allez à l'observatoire de Vérossa ce soir, vous êtes content qu'il n'y ait pas un nuage aujourd'hui.
Ah,
je suis assez content, je dois dire.
Sa vie, garçon.
j'avoue.
Les infos
plaisir.
Ludovic Turin.
Bonjour Cyril, bonjour à tous. Le projet de rénovation et d'agrandissement de la cabane de Suzanf va de l'avant. Après les résultats du concours d'architecture fin 2024, remporté par le bureau Martignerin Game, le dossier est désormais mis à l'enquête. Pour rappel, il comprend la modernisation de l'établissement niché au cœur d'un vallon dominé par la haute cime et les dents blanches. Si l'amélioration du confort et de l'efficience énergétique était au centre des discussions, l'aspect architectural de la bâtisse ne devrait quant à lui pas changer. Les précisions à ce sujet de Loïc Engeli, président de la section yverdonnoise du club alpin suisse, propriétaire de la cabane de Suzanf.
Alors on a essayé de rester relativement sobre sur l'aspect architectural. On voit qu'il y a eu dans les années 2000, en 2000 et 2020, des cabanes qui étaient des emblèmes, typiquement la cabane du Mont-Rose qui est un diamant posé dans les montagnes. Nous on voulait avoir un impact architectural plus modéré. On voulait essayer de rester dans l'esprit de ces cabanes en pierre et comme ça. Donc on a essayé d'insérer des volumes, trois volumes sur le site. Donc un volume qu'on va conserver qui est le volume d'origine de la cabane qui était construit dans les années 30. Et on va adjoindre deux nouveaux volumes qui sont de taille modeste. Donc on essaye d'avoir un impact architectural dans la lignée de ce qui avait été fait par le passé, tout en sachant qu'on a une forte demande de la clientèle et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un emblème architectural pour attirer plus de monde. On est déjà dans des capacités au niveau de la montagne aussi, où on ne peut pas forcément avoir plus de monde qui viennent. Donc on essaie de rester modeste, on dira.
Et après le processus de mise à l'enquête, le début des travaux devrait débuter d'ici cet automne. Une longue période durant laquelle la cabane de Suzanf restera ouverte, mais en format réduit. Ce printemps, le défi Bike to Work veut à nouveau faire pédaler toutes les entreprises chablaisiennes. L'action initiée par l'association Pro Vélo invite les employés de la région à réaliser leur trajet domicile-travail à bicyclette à partir du mois de mai. Durant 2 mois, les cyclistes inscrits ont pour objectif de cumuler un maximum de kilomètres en se rendant au travail par équipe de 4 collaborateurs. Selon la fêtière, participer au défi Bike to Work permet de réduire son empreinte carbone tout en renforçant sa santé et la cohésion professionnelle. Philippe Janssen, secrétaire de Pro Vélo Valais.
Ce qu'on remarque dans de nombreuses entreprises, c'est que souvent des équipes d'employés sont formées qui n'auraient jamais fait du vélo pour aller au boulot. Et puis en découvrant Bike to Work, ils voient une certaine envie, un certain esprit d'équipe, un certain bienfait pour la santé, sur la concentration. Et ils continuent après l'action à faire du vélo et à se rendre occasionnellement ou souvent à vélo au travail. Et ça, c'est un des effets escomptés, puis c'est ce qui nous réjouit particulièrement.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo. En 2024, plus de 2800 entreprises suisses ont participé à cet événement, mobilisant plus de 95 000 cyclistes et économisant 4016 tonnes de CO2. Dès janvier 2026, les ex-conjoints ne seront plus tenus solidairement responsables de leurs dettes fiscales dans le canton de Vaud. Le Grand Conseil a mis fin à une pratique jugée discriminatoire, mais sans effet rétroactif, au grand regret de la gauche et des associations de défense des femmes. Environ 150 femmes par an étaient concernées par cette règle, unique en Suisse romande. Si la réforme est saluée, des recours sont déjà envisagés pour réparer ce que certains appellent une injustice persistante. Les transports publics sont très sûrs en Suisse, mais les accidents de passagers dans les bus et les trams ont augmenté ces 10 dernières années. Une campagne de prévention nationale a été lancée hier par l'Union des transports publics. Des flyers, des autocollants et des affiches sont placés dans les bus et les trams. Ils donnent des conseils aux voyageurs pour un comportement plus sûr. Par exemple, il est recommandé de toujours se tenir une fois monté à bord. Les explications de Laurent Roux, directeur des transports publics lucernois.
D'un côté, c'est bien de voir que les gens ils se sentent sûrs dans les transports publics en Suisse et dans les villes. Mais de l'autre côté, c'est hyper important parce qu'il ne faut pas beaucoup, même avec 5 km à l'heure, si le bus il freine brusquement, les gens ils tombent et puis ils se blessent grièvement.
Et si possible, s'asseoir aussi ?
Toujours s'asseoir. Ça, c'est le moyen le plus sûr dans les bus, s'asseoir et surtout aussi rester assis jusqu'à que le bus, il s'est vraiment arrêté, il a stoppé et puis seulement après se lever parce qu'on a assez de temps pour sortir d'un bus.
Des propos recueillis par notre correspondante sous la coupole, Marie Vieumier. La campagne conseille aussi de maintenir les boutons des portes appuyés lorsque l'on veut entrer et sortir des véhicules. À l'étranger, quelques 6600 soldats nord-coréens auraient été tués en combattant aux côtés de l'armée russe en Ukraine, selon les services de renseignement sud-coréens. En tout, 18 000 soldats de Pyongyang auraient été déployés en deux phases, principalement pour soutenir la reprise de la région de Koursk. Si leur efficacité s'est accrue, des cas de mauvaise conduite ont aussi été signalés. Une troisième phase d'envoi de troupes n'est pas exclue. On ouvre une page hockey sur glace. L'aventure de Dave Souter avec Fribourg-Gotteron a pris fin il y a un peu plus de deux semaines. Les Dragons ont été éliminés en demi-finale de play-off par Lausanne à l'issue de l'acte 7. Une déception pour le défenseur montaisan qui n'en oublie cependant pas que les Dragons ont réalisé une excellente saison. Dave Souter.
Sur le plan personnel, je dirais quand même pas mal. Une bonne saison, dans le sens que c'est vrai qu'on a mal commencé. Un mauvais début de saison d'équipe. Je crois qu'on était 13e encore jusqu'à une certaine partie du championnat. Après, à partir de décembre, entre la victoire de la Coupe Spengler, on a enchaîné beaucoup de victoires. Enfin, même pas de victoires, mais on a pris énormément de points pour chaque match. Et après ça, venir en demi-finale, je pense, et perdre en 7 matchs, une déception, parce que je pense qu'on avait moyen de faire mieux. Mais malheureusement, c'est le sport. Et puis voilà, on a fait ce qu'on a pu et ça n'a pas joué pour nous.
Des propos recueillis par Julien Massy. Débarqué à Fribourg il y a 5 ans, Dave Souter quittera les Dragons cet été pour rejoindre Genève Servette. Enfin en football, le PSG a pris une belle option pour la finale de la Ligue des Champions en s'imposant 1-0 sur le terrain d'Arsenal en demi-finale aller. C'était hier soir à Londres. Ousmane Dembélé a marqué dès la 4e minute et le gardien parisien Gianluigi Donnarumma a ensuite écœuré les Gunners pour une série d'arrêts décisifs. Le match retour se jouera mercredi prochain au Parc des Princes et ce soir l'autre demi-finale mettra aux prises le FC Barcelone et l'Inter de Milan. Coup d'envoi 21h.
Serait-ce l'année du PSG ? On verra. Merci Ludo.
À toutes.